les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue dans votre programme hebdomadaire Les Ondes Buissonnières, le programme des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de Radio Saint-Fé. Aujourd'hui, nous diffusons un nouvel épisode de Parentalité Mon Amour, un programme de Radio Méga à Valence qui traite des thématiques familiales. L'épisode du jour s'intéressera à la parentalité dans un contexte interculturel. Comment le mélange des cultures apporte une richesse à la famille? Comment les enfants s'épanouissent dans ce contexte? Et quelles sont les difficultés rencontrées par ces familles dans les pays d'accueil? Cet épisode a été réalisé par Bastien Hénard. Bonne écoute.
Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille, en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
En cette période préélectorale, un certain nombre de candidats en campagne mettent en avant un repli identitaire, et par là, une opposition entre les cultures. Ce discours fragilise un peu plus les personnes qui, sur notre territoire, viennent d'ailleurs, ont des origines différentes. Pourtant, une multitude de familles vivent dans l'interculturalité et s'enrichissent de leur diversité. Il ne faut pas cependant regarder ce mélange des cultures de manière manichéenne, apport et problématique. Il faut l'aborder de manière transversale. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de la parentalité dans un contexte interculturel. Comment les enfants s'épanouissent dans ce contexte? Comment le mélange des cultures apporte une richesse à la famille? Quelles difficultés rencontrent ces familles dans le pays d'accueil alors que les repères éducatifs changent pour l'ensemble des familles? Comment la culture du pays d'origine influence les comportements? Pour aborder ce sujet, j'échangerai avec Fabienne Moulon, psychologue clinicienne au Point Relais Oxygène de la ville de Valence, et Patrick Giraud, directeur de l'association Roman International. Bonjour Fabienne Moulon.
Bonjour.
Patrick Giraud, que je salue, n'a pu être là aujourd'hui. Il était au micro avec moi la semaine dernière. Le portrait du jour sera celui d'Alexandra Giraud, directrice de l'association Pluriel. Et en fin d'émission, Isabelle Tambay, référente parentalité départementale pour la CAF de la Drôme, nous présentera l'agenda des structures. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Commençons cette émission par des mots autour de l'interculturalité saisie dans la rue.
Comment conjuguer deux cultures différentes dans un couple ?
Par beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, de concessions, de temps ensemble.
Peut-être que je rajouterais avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de l'autre, avec une recherche peut-être de connaissance de la culture de l'autre. Ça fait beaucoup de paramètres.
Si ton couple fonctionne, forcément déjà tu conjugues deux cultures toi-même, donc tu inculques ça déjà à tes enfants, donc c'est un partage, enfin... Ça me paraît naturel que les cultures se mêlent.
Quand les parents ont une culture différente à celle du pays de résidence, qu'est-ce que cela apporte à l'enfant ?
Bah, de l'ouverture. Moi, je trouve que ça apporte l'idée que... Il existe bien d'autres choses que ce qu'on voit autour de nous.
Peut-être la possibilité de faire un choix en toute connaissance de cause, au bout d'un certain moment, s'il y a choix à faire, ou faire une troisième culture, un mélange des deux.
Mais c'est une richesse culturelle. Pour moi, de toute façon, plus t'as de culture, plus t'es riche, je trouve. Enfin, pour moi, c'est génial. C'est une valeur ajoutée. Ça veut dire que t'amènes deux cultures en plus de là où tu es. Donc, je trouve ça trop bien.
Elle apporte beaucoup de choses. Elle apporte la diversité. Elle apporte beaucoup de connaissances. Comme il y a la richesse de deux pays, par exemple. Voilà. D'apprendre deux langues,
deux cultures différentes, voilà.
C'est ça.
Fabienne Moulon, je vous ai vu noter quelques mots de ces passants dans les rues de Valence. Peut-être une réaction à ce qu'on a entendu.
Eh bien, je suis très étonnée de voir comment on peut se représenter l'interculturalité sous l'angle de l'ouverture, de la disponibilité à l'autre, de l'écoute à l'autre. Alors, vraiment, je trouve que c'est beau de voir qu'on est quand même dans l'idée que c'est plutôt quelque chose d'enrichissant que de, je sais pas, que de, d'inquiétant, forcément, quoi.
Alors, on a discuté ensemble avant cette émission, quand on parle d'interculturalité, on peut parler entre le sud et le nord de la France, ce n'est pas le propos de cette émission, mais vous m'avez parlé d'interculturalité en tant que mélange des cultures entre deux civilisations. Qu'entendez-vous par civilisation ?
Alors, moi je me représente la Terre avec des groupes humains qui se sont constitués avec des formes de règles de vie en commun. Donc du coup, des sociétés, ils ont construit des sociétés partout sur la Terre. Et effectivement, il y a mille façons, peut-être même plus, de construire une société. Ça dépend comment on a envie de vivre ensemble, ce sur quoi on pense qu'il est important d'appuyer, ce qui est moins important, etc. Et d'un endroit à l'autre de la Terre, on n'a pas toujours les mêmes raisons de s'organiser de telle ou telle manière. Enfin, il peut y avoir des différences liées au climat, liées à la profusion de nourriture, ou pas, enfin il y a beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, pour moi, les civilisations, je ne sais pas si c'est une définition très anthropologique, hein, je n'irai pas jusque-là, mais pour moi, en tout cas, la civilisation, ça représente une façon de s'être organisé dans un groupe qui vit ensemble, et après, du coup, on appelle ça une culture, une forme de culture commune à chacun des membres de ce groupe-là, bah, qui font avec, individuellement, voilà, on se débrouille. Et du coup, dans chaque culture, donc, on va éduquer les enfants au regard de ces modèles-là qu'on s'est construits et la façon dont on se représente qu'il faille vivre ensemble, quoi.
Alors, il y a des constantes dans le développement d'un enfant, un dénominateur commun, quelle que soit la culture. Quelles sont justement ces constantes? Comment on peut les déterminer?
Alors, les constantes dans la construction identitaire d'un individu, de toute façon, il y a le fait qu'on est dépendant des adultes qui nous entourent, puisque l'être humain naît très immature. Donc, physiologiquement, il ne pourrait pas se débrouiller. Du coup, il s'en remet aux adultes autour et, a priori, les premiers adultes qui sont concernés par l'enfant, c'est d'abord les parents. Donc, la mère et le père, qui ne sont pas toujours des gens qui sont en lien biologique. Il y a des sociétés qui s'organisent complètement différemment. Le père ou la mère ne sont pas ceux que nous nous représentons forcément ici en France. Donc ça, mais la constante, c'est qu'on s'en remet quand même à ces modèles parentaux. Pardon. Donc voilà. Et puis, il y a des... Alors, je ne sais pas très bien ce que tu veux me demander d'expliciter.
A priori, il y a des choses qui, indépendamment de la culture, sont transmises à l'enfant. C'est ça que je voulais voir, en fait. Qu'est-ce qui est le socle commun pour après voir plutôt les différences et ce qui va mettre des cultures dans des modes d'éducation différents?
Alors, a priori, ce qui est transversal, c'est la façon dont on va se nourrir, la façon dont on va devoir se vêtir, etc., parce qu'on est dans un endroit particulier et que les parents transmettent ça, ne serait-ce que ça. La façon dont on se protège du froid, de la chaleur, la façon dont on gère sa santé aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en bonne santé et qu'est-ce qu'il faut éviter ? Tous ces éléments-là vont effectivement participer de choses complètement transversales. Une chose, par exemple, qui n'est pas transversale, c'est d'aller à l'école. Voilà, tous les enfants du monde ne vont pas à l'école. Les organisations sociales ne s'organisent pas toutes de la même façon avec l'obligation d'envoyer un enfant à l'école.
Alors, qu'est-ce que le mélange des cultures produit dans la construction éducative et la construction de l'enfant ?
Alors, déjà, la construction éducative, elle part d'abord des parents. C'est d'abord l'enfant, il naît des parents. Donc, il faut que les parents aient une représentation de leur manière de vouloir éduquer l'enfant à venir. Alors, parfois, l'enfant à venir, il n'est pas désiré. Il y a des tas de contextes qui font que cette projection-là, j'en parlerai pas là parce que c'est un peu particulier. Mais je parlerai de la projection du parent qui désire avoir un enfant. et qui, du coup, va se représenter la façon dont il va transmettre des choses et vouloir que son enfant puisse apprendre ceci, cela, sache faire ça, évite de faire ceci ou cela. Et dans ces représentations-là, évidemment que la façon dont on a été éduqué dans une civilisation, quelle qu'elle soit, nous donne les grilles sur lesquelles on va s'appuyer pour transmettre. Donc, dans la façon dont on va éduquer un enfant, quand il y a double civilisation, par exemple, le père et la mère, il va falloir croiser des choses. Les grilles ne seront pas, synchro complètement. Donc du coup, là où les choses vont pouvoir éventuellement se réorganiser, là, ça va demander aux parents de faire ce travail-là. J'ai envie de dire, un couple qui vient d'un même milieu, il ne va pas avoir besoin, sur des petites choses, mais pas forcément sur des choses essentielles. Dans un couple mixte d'interculturalité, il va falloir faire des choses, des réflexions et se repositionner sur des choses essentielles. Sans compter que, là on parle de mixité culturelle, mais moi je dirais que chez nous par exemple, on peut imaginer qu'il y en a, ils ont trois civilisations à conjuguer. De deux parents de deux civilisations différentes, plus celle de France, où ils sont. Donc ça fait trois conjugaisons, trois grilles qui doivent se conjuguer. Les parents doivent se réinterroger sur ce qu'ils savent de, par exemple, l'alimentation de l'enfant. De là où on vient, on n'alimente pas les très jeunes enfants de la même manière. Comment on va s'organiser dans l'idée qu'on se fait de nourrir son enfant de manière... à être un bon parent là-dessus. Mais aussi en fonction de là où on se trouve et là où on va nous regarder faire pour nourrir notre enfant et où, je sais pas, nous, on est à la maternité, il y a des médecins, il y a des infirmières, des sages-femmes, enfin, tout un tas de professionnels qui vont nous dire comment il faut nourrir notre enfant. Pour peu qu'on ne soit pas du tout de cette culture-là, on peut halluciner en entendant « Mais comment ça ?» Mais ils ne vont pas nous demander de faire ça, mais moi, chez moi, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, il y a tout ce travail-là de réélaboration que ces parents-là ont à faire, alors que les autres, on en fait toujours, hein, il y a toujours deux cultures de famille, mais il est peut-être un peu moins exigeant.
On parle des parents, vous recevez des jeunes au point relais Oxygène. Comment ils composent, justement, avec leurs origines pour se construire, eux, peut-être un peu indépendamment des parents? Comment ils composent avec ces origines différentes?
Alors, moi, j'appelle ça du métissage. C'est ce mot-là que j'utilise avec eux. C'est-à-dire que souvent, ils sont dans des quêtes identitaires comme les autres, hein, et dans des interrogations existentielles comme les autres. C'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi je suis ici? Pourquoi mes parents sont comme ci? Est-ce que ma religion peut me permettre ceci, cela? Est-ce que... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont réinterrogées à cette période-là de la vie. Et du coup, c'est le moment où on va réinterroger la manière dont on se sent, comment je pourrais dire, orienté dans la vie par, alors moi j'appelle ça la tutelle familiale, c'est-à-dire la tutelle familiale au sens du toit où j'ai été accueilli et où j'ai grandi. Cette tutelle familiale, elle nous donne des représentations de ce qu'on attend de nous dans la famille. Il y a des valeurs familiales qu'on se doit de porter, voilà, parce que sinon on est un traître, quoi. Donc voilà. Et puis il y a aussi des aspirations générationnelles qui viennent mettre un peu en porte-à-faux tout ça. C'est-à-dire que mes parents, ils me disent qu'il faut être honnête, ils me disent qu'il faut travailler, le goût de l'effort, machin, tout ça, qu'il faut que je gagne de l'argent pour vivre ma vie. OK, mais eux, à leur époque, à leurs 20 ans à eux, on n'était pas dans le même contexte. Donc comment on fait aujourd'hui avec ces valeurs-là pour continuer de les porter et d'avoir envie de les vivre parce qu'elles nous soutiennent bien? Mais comment on fait dans le contexte où on est? Et là, du coup, cela réinterroge aussi la façon dont ils viennent de cultures différentes encore et où du coup parfois ils sont troublés sur la façon dont ils sentent que, intuitivement souvent, qu'ils pourraient trahir leurs parents s'ils décrochaient de quelque chose qui vient du tréfonds de la culture familiale, des racines anciennes. Et là-dessus, parfois, c'est douloureux pour eux.
J'en viens à un terme que vous avez employé, c'est le conflit de loyauté. C'est à ça que ça va amener finalement le fait de composer toujours entre la culture d'origine, la culture du pays d'accueil. On a un conflit de loyauté. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser ce que c'est qu'un conflit de loyauté et ce que ça entraîne ?
Alors le conflit de loyauté, c'est je vais faire un choix qui est contraire à ce que les valeurs familiales me disent. Donc du coup, je ne sais pas, mon père et ma mère ne souhaitent pas que j'aille avec ce type de copain-là. Parce qu'ils ne sont pas de mon milieu, ce n'est pas des bons... des bonnes fréquentations, etc. Alors parfois, c'est je ne veux pas que tu ailles traîner avec ces étrangers ou ces étrangers-là. Ou bien ça peut être je n'ai pas envie que tu ailles faire des études de ce type-là. Moi, je te dis que les études, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Sinon, ce n'est pas bien. Et du coup, le jeune qui, à un moment donné, se dit ben moi, ces potes-là, c'est des gens intéressants pour moi. Enfin, ils m'apportent des choses. Mais pas, ils ne sont pas forcément merveilleux, mais n'empêche que moi, je comprends aussi le monde grâce à eux. Et du coup, peut-être je vais me planquer pour avoir des liens avec ces copains-là. Parce qu'il ne faut pas que ma famille le voie, sinon ils vont trouver que je suis un mauvais enfant.
Ça, c'est commun à toutes, qu'on soit d'une culture différente ou pas.
Exactement.
Ce que vous dites là.
Exactement.
Quand on arrive sur l'interculturalité... Est-ce que le conflit de loyauté est plus fort, va être plus fort sur certains sujets ou pas ?
Alors, c'est pas plus fort, mais il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute. C'est-à-dire que le fait de devoir se planquer parce qu'on ne va pas pouvoir... Ça, c'est effectivement, on a tous menti à un moment donné pour éviter de confronter le fait qu'on faisait des choix opposés à ce qui était attendu. Mais ça met dans un sentiment de culpabilité, profondément, sur le fait de se sentir un mauvais enfant. Donc, de faire de nos parents des mauvais parents. Donc ça, c'est très compliqué à traverser. Et dans l'interculturalité, un certain nombre, du coup, de jeunes se trouvent aussi confrontés au fait qu'ils vont devoir faire évoluer leurs parents sur d'autres choses.
C'est une sacrée charge de devoir faire évoluer ses propres parents.
C'est ça. Parce qu'on fait tous évoluer nos parents, hein. Sauf que quand on est dans une même sauce de civilisation, c'est pas simple, mais c'est parfois même douloureux, mais c'est logique. Alors que quand il y a cette particularité-là interculturelle, moi je vois bien que pour eux, ils sont chargés de... C'est-à-dire sinon ça va craquer, ils vont être exclus, ils vont vraiment être bannis d'une certaine manière de la famille s'ils ne se comportent pas comme il faut avec leurs parents.
Je crois qu'on s'approche de la fin de notre entretien. Je pense qu'il faudra peut-être un jour aller plus loin sur cette question parce qu'elle est fort intéressante. Je voulais savoir si, par rapport aux racines de ces enfants, est-ce que l'arrivée d'Internet, du numérique, a changé le lien au pays d'origine ? Est-ce que ça a facilité le fait de se rapprocher de ses racines ? Et peut-être apaiser certaines choses ?
Se rapprocher de ses racines, je ne crois pas que c'est le terme que j'utiliserais. Parce qu'en fait, on ne se rapproche pas. Mais disons, on ne perd pas le fil. C'est peut-être dans ce sens-là que je le dirais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des jeunes qui sont ici, qui sont isolés, comme on dit, de leur famille, hein, mineurs ou majeurs, hein, et qui viennent de pays où c'est très compliqué d'avoir des liens. Enfin, on n'envoie pas une lettre, il n'y a pas la poste, il n'y a pas plein de choses, on ne prend pas le train pour aller voir ou même l'avion. Et donc, du coup, le téléphone reste un objet qui est essentiel pour garder un contact, pour avoir des nouvelles de la famille et s'en donner. Donc ça, c'est un fil qui est effectivement extrêmement intéressant quand on est dans ces différences.
Merci Fabienne Moulon, merci beaucoup d'être venue au micro de Parentalité Mon Amour. On va continuer cette émission en musique et puis on retrouvera après le portrait de cette émission.
Don't you
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Et je rappelle que ce magazine de la famille est multidiffusé sur les radios associatives drômoises Soleil FM, Erdiwa, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Vous avez écouté Nilufer Yanya avec le titre Stabilize et je remercie notre programmateur, je vais y arriver, musical Raphaël pour ce choix. Tout de suite, c'est le portrait de l'émission. C'était Alexandra Giraud, directrice de l'association Plurielle, qui était avec moi au micro il y a quelques temps.
Alexandra Giraud et je suis donc directrice à l'association Plurielle. Je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai un parcours en protection de l'enfance. J'ai commencé à travailler dans des foyers auprès d'adolescents. Et rapidement, donc, j'ai intégré l'association Plurielle en qualité d'éducatrice spécialisée et j'intervenais donc auprès des enfants et familles en difficulté à domicile. Je suis ensuite devenue chef de service donc sur un service qui accueille et accompagne des mineurs non accompagnés. Donc j'ai monté ce service-là dans le Gard. Ensuite, par le biais de candidatures en fait internes, je suis passée directrice adjointe et donc récemment directrice de l'association Plurielle sur les 4 départements. L'interculturalité, pour moi, c'est vraiment le fait d'accueillir l'autre avec, donc, nous, notre propre culture, mais sans nier sa culture à lui d'origine, et d'être vraiment dans un travail et un accueil de l'autre avec, justement, sa propre culture pour lui permettre de s'adapter et de vivre aujourd'hui dans notre société, mais tout en gardant sa culture d'origine.
En quoi la différence de culture joue sur la parentalité ?
Alors, il peut y avoir des représentations différentes de ce qu'est être parent, en fonction justement du pays d'origine, de la culture d'origine. Donc, il va y avoir quand même tout un travail aussi auprès des personnes donc, qui ont une autre culture sur ce qu'est la parentalité en France, ce qu'est l'autorité parentale, les droits et les devoirs qui y sont liés. On accueille donc principalement des garçons, 99% de garçons, qui peuvent porter un regard sur la femme qui est différent, en tout cas sur la place des femmes dans une société, qu'on peut comme ça en premier lieu percevoir comme quelque chose de l'ordre de dénigrant, mais c'est pas du tout le cas généralement quand on discute avec ces jeunes. La place des femmes dans leur pays, dans les villages, elles vont avoir une place très importante, déterminante, mais plutôt sur la vie de la communauté, voilà, sur le prendre soin, sur l'alimentation, etc. Et quand ils découvrent en France qu'une femme va avoir le droit d'exercer certaines fonctions, par exemple, de diriger des hommes, de faire un certain nombre de choses, de conduire, de fumer, et qu'en plus elle a le droit de faire ça sans l'accord et l'accompagnement d'un homme, de la famille, donc généralement du mari, mais sinon du frère, etc. C'est une vraie découverte aussi pour ces jeunes. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on peut voir comme un non-respect des femmes, mais c'est pas le cas. C'est pour le coup, en termes d'interculturalité, c'est une déconstruction en fait de eux dans leur culture d'origine. Finalement, la place de la femme, elle va être déterminée d'une certaine façon. Et nous, le job entre guillemets, ça va être aussi de leur communiquer comment nous, en France, on a évolué sur cette question-là, comment la place des femmes aujourd'hui est pensée, possible, par opposition, en tout cas par distinction, avec ce qu'ils ont pu connaître dans leur propre pays d'origine.
Comment votre structure pallie à l'absence de parents dans un contexte de culture différente à celle du pays d'accueil ?
Dans notre accompagnement, on va essayer à la fois, il va y avoir finalement deux versants. Il y a tout le côté autorité parentale, réponse aux besoins de l'enfant, donc des mineurs qu'on accompagne dans toutes les sphères de leur vie quotidienne. Et dans un autre côté, on va être plutôt sur les développements de projets de parrainage pour permettre aussi aux jeunes qu'on accompagne de se relier à des familles, à un couple, un parrain, une marraine, donc des personnes qui vivent en France, qui sont françaises, avec une culture française. Et donc, tout le travail va être aussi de relier ce jeune-là avec une cellule familiale, quelle qu'elle soit, en France, et de lui permettre aussi d'apprendre les coutumes, les usages sociaux, etc. Mais dans l'intégration d'une vie de famille, d'une vie quotidienne, d'une autre famille qui est déjà, elle, implantée en France.
Est-ce que vous pouvez développer sur la sphère de la vie quotidienne ? Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Ça va être tout ce qui va avoir attrait à la vie dans le logement, l'alimentation, le prendre soin soin de soi, prendre soin de son lieu de vie. Il va y avoir tout le versant de la santé psychique, physique. On a des jeunes qui arrivent quand même avec des pathologies lourdes, donc qui vont avoir besoin qu'on soit dans le prendre soin et qu'on les accompagne dans le prendre soin d'eux et du coup d'en repérer leurs besoins et repérer tous les acteurs qui vont pouvoir les soutenir là-dedans. Il y a quand même un gros pan aussi sur le versant de l'insertion professionnelle, scolaire, la notion de projet de vie, de projet de métier. Donc d'aller apprendre aussi à l'école, apprendre un métier, apprendre des compétences, apprendre une langue. Voilà, il y a un peu tous ces aspects-là.
Comment les mineurs non accompagnés que vous suivez vivent ce choc de culture sans leur famille ?
Déjà, il faut dire que c'est un vrai choc. C'est-à-dire que le jeune, quand il arrive au bout de son parcours, il y a tout le parcours migratoire. Donc, il quitte son pays, il quitte une famille. Il vient en France avec un projet, avec une représentation de ce qu'il va pouvoir faire et réaliser en France. Moi, je dirais que le premier choc, il est déjà dans la désillusion. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui se sont construits des représentations sur ce qu'est la France et ce qu'elle va pouvoir leur offrir. Et dans l'arrivée, il y a notre parcours qui démarre, un parcours d'un point de vue administratif et un parcours d'un point de vue intégration, etc. On a des jeunes qui sont pour la majorité originaires de pays francophones, mais qui pour autant vont avoir des difficultés du point de vue écriture, lecture, etc. Donc on ne se rend pas compte à quel point ça peut être handicapant dans la vie de tous les jours de ne pas pouvoir écrire ou lire aisément. Et puis après, en fonction de où ils sont originaires et plutôt de grandes villes ou de campagnes plus reculées dans les pays, il y a un énorme choc sur ne serait-ce que la technologie, nos modes de vie, utiliser un micro-ondes, une carte bancaire, aller au supermarché, voilà, faire ses courses, donc vraiment dans tous les actes de la vie quotidienne. Donc ça va dépendre un petit peu de où est originaire le jeune et est-ce qu'il est déjà un petit peu habitué à un mode de vie occidental qu'on va plus connaître dans les grandes villes, ou au contraire qui vient d'un milieu plutôt très rural et où là, tout va être une découverte, quoi.
Parentalité, mon amour, la suite, peut-être une réaction de mon invité qui est resté avec moi et je la remercie. Fabienne Moulon, pour vous avoir croisé à plusieurs reprises sur des conférences ou des réunions autour des mineurs non accompagnés, on dit les MNA, peut-être c'est bien de citer les mots, mineurs non accompagnés, avec ce parcours migratoire souvent très complexe. Peut-être une réaction à ce que vous avez entendu d'Alexandra Giraud.
J'ai trouvé très très juste tout ce qu'elle décrivait, parce que je pense que c'est effectivement un cheminement qu'on ne soupçonne pas quand on voit un jeune, on se dit il est jeune, il a de la force, enfin il est beau, il est mignon, il est bien habillé, machin. On ne soupçonne pas ce qu'il y a derrière toute cette image-là. Et par ailleurs, ce que je rajouterais, moi, dans ce que je vois quand ils ont des difficultés et qu'ils viennent en entretien psychologique, déjà, ben, par exemple, moi, c'est des jeunes à qui j'explique ce que c'est qu'un psychologue et un entretien psychologique, parce que c'est pas dans tous les pays.
Mes connaissances.
Voilà, ça ne fait pas partie de toutes les cultures. Donc, déjà, je les initie, j'ai envie de dire, à une manière de se représenter ce qu'on fait. Quand on discute, ils sont très souvent dans des entretiens en quête de repères d'adultes sages. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des parents, mais de confiance, des sages qui pourraient leur dire « il vaut mieux faire comme ci » ou « tu ne dois pas te comporter comme ça », etc. Ça les aide à se rassurer sur le fait qu'ils sont étayés de l'extérieur. Donc la question de la famille d'accueil, je trouve que c'est une très bonne manière quand même aussi d'approcher ça. Et puis là où souvent on est obligé quand même de discuter de ça dans les entretiens, c'est la question d'une éventuelle possibilité de retour au pays, parce que ça se pose aussi. Est-ce qu'un jour je vais rentrer chez moi ? Mais ça se pose en France quand on va, je sais pas, si on va travailler au Havre et qu'on est du Diwa, est-ce qu'un jour je vais pouvoir rentrer dans mon pays du Diwa ? Ça peut se poser aussi comme ça à n'importe qui. Mais eux, par rapport aux représentations qui étaient évoquées sur la vie qu'ils pourraient avoir ici, le choc de la déception, en tout cas, que ce choc-là fait éprouver sur c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est autre chose qui se passe. Moi, je trouve que ce qu'ils ont comme questionnement très particulier, c'est est-ce que je vais avoir envie de retourner un jour ? et de retourner vers ma famille, à l'origine là-bas, celle qui m'a envoyée. Est-ce que je ne vais pas les trahir parce que je n'arrive pas à gagner l'argent comme ça a pu être espéré? Et du coup, qu'est-ce que je fais ici? Je ne peux pas rentrer là-bas, ce serait la honte. Il y a beaucoup de choses qui sont à travailler là-dessus, qui sont très spécifiques à cette population-là.
Merci beaucoup Fabienne Moulon. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur Radio Méga. Tout de suite, on écoute Aldous Harding avant d'écouter notre deuxième invité de ce Parentalité, Mon Amour, numéro 26, je le précise, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on parle de parentalité sur Radio Méga et c'est bien agréable. Vous êtes bien dans Parentalité, Mon Amour. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que cette émission est multidiffusée sur les radios associatives drômoises Soleil FM, Erdiwa, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Notre second invité n'était pas sur le plateau. Il était avec moi la semaine dernière. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Patrick Giraud.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Roman International. À ce titre et avec votre équipe, vous accueillez des jeunes de pays étrangers et par là de cultures différentes. Comment se passe l'accueil de ces jeunes qui doivent s'adapter à la culture française ?
Alors, les jeunes déjà que l'on accueille, donc oui, effectivement, arrivent de pays européens, Espagne, Italie, Portugal, Belgique ou autres. Voilà, ils viennent, en tout cas, quand on les accueille à notre niveau, pour la plupart, viennent sur des missions courtes, sur une quinzaine de jours. Au niveau de Romans, on a en fait des partenaires avec lesquels on collabore. Et ces jeunes donc viennent, sur ces 15 jours-là, faire des missions d'intérêt général, je dirais, en appui en tout cas aux associations avec lesquelles on collabore. Donc ça, c'est une partie. 15 jours, ça reste assez court. On a parfois des jeunes qui viennent sur des missions plus longues, sur des longs termes, ce qu'on appelle donc plusieurs mois d'affilée, où là, ils viennent en appui aux missions que nous, on a au niveau de Romans International.
Alors, comment les échanges, les découvertes d'autres cultures peuvent être riches pour la construction de ces jeunes qui se déplacent en France ?
Alors, riches, effectivement, avant tout pour leur niveau personnel. L'idée, c'est véritablement, alors la priorité pour les uns et les autres, c'est vraiment d'être motivés pour aller vers des jeunes d'une culture différente. On les met en condition de rencontre, puisqu'ils se retrouvent à être dans une même maison, dans une colocation. Et donc, la rencontre d'un Espagnol avec un Italien, avec un Belge, et avec donc des Français, puisqu'il y a une rencontre avec donc des jeunes Français aussi localement, leur permet la plupart du temps de confronter en tout cas leurs croyances sur la façon dont ils vivent habituellement, leur façon au quotidien d'appréhender le monde, et donc de bousculer un petit peu leur façon de vivre, leur façon de penser que il pourrait y avoir qu'une seule façon de faire. Donc quand ils se retrouvent à travailler sur un projet commun, ils ont des visions forcément différentes qui sont amenées, calquées par leur façon, leur culture, leur façon de vivre en famille, chez eux, la plupart du temps, ou ce qu'ils ont vécu donc, dans leur enfance, dans leur jeunesse. Et ils viennent confronter avec d'autres venant de cultures différentes des points de vue qui les amènent en tout cas effectivement à prendre de la distance avec ce qu'ils vivent habituellement et donc de s'enrichir de choses différentes et de s'apercevoir qu'effectivement, il n'y a parfois pas qu'une seule façon de faire.
Alors, est-ce que parfois la différence de culture crée des incompréhensions ? De quelle nature sont-elles et comment y remédiez-vous ?
Parfois, effectivement. Ça peut créer des incompréhensions parce que certains ont le sentiment d'être un peu, enfin, en tout cas d'être arc-bouté, je dirais, sur des façons d'être. Il est parfois nécessaire de faire telle ou telle chose de telle façon et que ces choses-là sont faites autrement. Je ne sais pas, je prends le petit déjeuner du matin. Chacun, dans sa culture différente, va peut-être manger des choses différentes. L'idée, c'est que l'on en parle, c'est de faire en sorte, en tout cas, que ces différences soient évoquées, soient discutées. Donc, il y a régulièrement des temps de concertation, d'échange, parce que ces différences peuvent amener effectivement du conflit, parfois dans les groupes. Et donc, dans l'idée, en tout cas, c'est vraiment d'essayer de les mettre en évidence, d'essayer de les décortiquer, je dirais, pour qu'ils soient mieux compris, mieux appréhendés, mieux acceptés par les autres, les uns et les autres, en tout cas. Mais effectivement, ça peut amener régulièrement, en tout cas, des animosités. Et on voit bien quand des jeunes se retrouvent d'une même culture, d'un même pays, ils se retrouvent dans un pays différent, ils ont plutôt tendance à se retrouver. La différence est quelque chose vers laquelle il faut aller. La ressemblance est parfois plus facile. On va plus facilement vers le français. Quand on est à l'étranger, on va aller plus vers une personne qui va être française parce que parfois, on va se trouver, il va y avoir des facilités de compréhension du mode de fonctionnement de l'autre et que d'aller vers un autre qui a des modes un mode de faire différent, ça va amener forcément un travail personnel à faire et à bousculer à ce moment-là ses habitudes, quoi.
Est-ce que vous organisez des temps d'échange entre les jeunes pour parler de leur culture, de leurs différences de culture et sous quelle forme peuvent être ces échanges ?
Alors oui, on le fait. Alors entre quand les jeunes viennent de différents pays, ça c'est effectivement vraiment des temps importants, des temps formalisés. Il y a déjà des temps aussi de partage et qui sont plus théoriques au départ sur l'interculturalité. Qu'est-ce que ça veut dire, comment elle se décrit, comment elle s'exprime. Donc on a des temps plus de partage et travail au départ de cohésion du groupe, je dirais, avec des exercices, hein, puisqu'on est une association d'éducation populaire. Donc l'idée, c'est pas que ce soit une théorie académique, je dirais, mais bien un travail sur de partage sur la base d'exercices, de vécu. Donc on part de ça. Et puis ensuite, quand ils sont dans les activités elles-mêmes, dans le partage de différentes activités, donc il y a des retours quand ils reviennent, par exemple, d'avoir été donner un coup de main à telle ou telle association pour tel ou tel projet. On fait des temps de retour, des temps de bilan, où là, on échange des moments où on peut effectivement aborder ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce que ça leur a fait vivre, comment ils ont réagi par rapport à ça, est-ce que c'est compliqué pour eux, pourquoi ça l'est à ce moment-là. Pour certains, c'est simple, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on prend ces temps de partage. Donc, théoriquement en amont, aussi on en parle avant d'aller sur l'activité, mais aussi au retour à ce moment-là, dans les temps de bilan, il y a forcément aussi des moments où il y a donc du partage et où chacun peut s'exprimer le plus possible pour faire en sorte, en tout cas, de dire ce qui ne lui a pas plu ou ce qui lui a plu aussi, hein, et ce qu'il a découvert à ce moment-là. L'idée, c'est d'aussi positiver l'ensemble de ce que les jeunes peuvent découvrir en étant en confrontation justement avec d'autres jeunes d'une culture différente.
Vous avez peut-être un exemple de retour, un exemple qui vous aurait marqué d'un jeune dans la manière dont il a abordé l'autre culture, ou d'un jeune qui est venu chez vous, peut-être un exemple qui parlerait de cela.
Alors dernièrement, on a accueilli des jeunes, donc c'était l'été dernier, hein, donc il y a eu notamment donc deux jeunes de Belgique et donc deux jeunes également d'Espagne. Ils ont eu l'occasion de travailler avec une association qui s'appelle Autant Partagé, qui est donc sur Rouen. Ils ont été amenés en fait à construire une rampe d'accès. Parce qu'il y avait un cinquième jeune qui venait de France, lui, et qui était dans le groupe et qui était en situation de handicap, il se déplaçait en fauteuil. Et donc, ils ont eu l'occasion, effectivement, de partager les questions autour de l'accessibilité, comment chacun voyait cette question-là. En lien donc avec l'association Autant Partagé, ils ont pu donc travailler sur la construction d'un plan incliné, de différentes, en tout cas, matériels pour pouvoir effectivement permettre plus d'accès à cette personne dans la maison où il habitait. Donc il y a eu un échange autour de ces questions d'accessibilité par rapport au handicap, une vision différente venant de chaque pays. Donc il y a eu, on a eu l'occasion en tout cas de pouvoir partager le ressenti, le regard que les uns et les autres portaient aussi sur les jeunes en situation de handicap, comment ils imaginaient ce qu'était l'inclusion dans leur propre pays, comment ça se traduit. Donc ça a été l'occasion en tout cas de pouvoir justement aborder cette question-là de façon transversale et de pouvoir se rendre compte que chaque jeune puisse se rendre compte effectivement que dans chaque pays, chaque culture avait une façon différente d'aborder la question.
Vous faites partir, vous l'avez déjà dit, hein, des jeunes Français à l'étranger. Comment les préparez-vous à la rencontre avec d'autres cultures ?
Alors, il y a donc des temps de préparation au départ qui sont organisés par mes collègues qui sont responsables du pôle de mobilité. Donc, il y a un certain nombre d'exercices qui, effectivement, abordent les questions d'interculturalité. Comment est-ce que, lorsque l'on va partir, quel comportement on va avoir, quelles surprises on risque de rencontrer. On sait que même s'il y a un temps de préparation, un temps de questionnement, la plupart du temps, c'est pas, hein, comme je le disais tout à l'heure, des aspects théoriques, mais connaît bien, des exercices qui leur permettent de se mettre en condition, je dirais, même si on va essayer de décortiquer les surprises qu'ils peuvent rencontrer, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les obstacles, de découvrir, ils vont aussi à ce moment-là travailler sur la découverte du partenaire avec lequel ils vont travailler, là où ils vont être accueillis, puisque les jeunes qui partent, les jeunes français, donc qui partent, que l'on envoie, ils partent toujours chez un partenaire qui va les accueillir. Donc on les prépare à ça. On sait bien que même si on essaie d'en échanger le plus possible et de faire en sorte qu'il y ait aussi à ce moment-là, parce que la préparation au départ ne se fait pas individuellement, la plupart du temps les jeunes partent en groupe en tout cas, parfois c'est seul, mais la plupart du temps ils partent à plusieurs, si entre 6 et 10. Il y a aussi tout un travail de réflexion de groupe autour de ces questions justement de découverte, de surprise, comment chacun s'imagine en tout cas être bousculé ou pas. Il y en a certains qui disent non, mais moi pas de problème, je vais dans tel pays, je connais un peu ou j'ai entendu parler, donc ça ira. Puis d'autres qui sont beaucoup plus en incertitude, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'avoir des éléments pour pouvoir être plus tranquillisé en tout cas. Donc on évoque tout ça. On sait bien que même si on évoque les possibles surprises, on sait ce qui les attend entre guillemets, en fonction de leur profil. Souvent, on s'imagine assez facilement aussi la façon dont ça peut se passer. Même si on en discute avant, il y a toujours cet effet de surprise, puisque la réalité du terrain, on a beau la discuter en amont, elle vient forcément percuter malgré tout les croyances des jeunes et ce pourquoi ils pensaient, ils étaient motivés pour partir. Parfois, ça peut être effectivement un peu différent de ce qu'ils vont découvrir et vivre à ce moment-là. Donc, l'idée de la préparation au départ, c'est bien de les amener à avoir en tout cas des outils personnels, de développer leur capacité personnelle à pouvoir appréhender cette situation qui est exceptionnelle, puisque pour la plupart, en tout cas, ils partent pour une première fois sur un séjour à l'étranger.
Pour terminer, quelle richesse, selon vous, rapportent ces jeunes qui partent à l'étranger dans leur famille?
Je pense que c'est une façon, en tout cas, c'est une aide à rompre le cordon familial, le cordon avec sa famille. Ça permet vraiment à ce moment-là de prendre une certaine indépendance, une autonomie de fonctionnement, de pouvoir se détacher de cet environnement familial dans un premier temps, ce qui est certainement nécessaire du fait de leur âge. Il y a certainement besoin, et si, de façon certainement peut-être inconsciente, en tout cas, ils vont vers ce genre de projet de mobilité, c'est certainement aussi pour prendre une certaine distance avec leur environnement familial, pour pouvoir effectivement aller vivre ce qu'ils ont eux-mêmes envie de vivre, seuls, même s'ils sont avec d'autres jeunes, mais malgré tout, c'est effectivement, on n'est plus en lien direct avec la famille. Donc, il y a cette envie de rompre le lien, qui n'est pas forcément toujours bien consciente, mais qui se vérifie au retour. Les jeunes à ce moment-là qui gagnent en autonomie, qui sont en capacité ensuite, effectivement, de pouvoir prendre en charge, en compte leur place dans la société de façon plus importante, plus décalée et en marge de ce que la famille a pu inculquer pendant les 15-20 premières années. Et donc qu'ils puissent prendre leurs décisions, être détachés, et le retour vers la famille se fera peut-être plus tard, le retour ou en tout cas un rapprochement. Mais je pense que ces temps de projet vers l'international, projet de mobilité, favorisent effectivement le détachement d'une certaine façon, que l'on essaie de pouvoir en faire en sorte, en tout cas, qu'il soit le mieux vécu possible. On ne travaille pas, nous, directement avec les familles, mais on va travailler avec le jeune pour, effectivement, évoquer avec lui ce que ça implique, au niveau de ses frères et sœurs, de ses parents, comment ses parents vivent les choses, et comment, ce que ça provoque pour lui, la réaction de ses parents. Il y a des parents qui sont inquiets, il y en a d'autres qui sont tout à fait favorables, qui poussent les enfants à partir, et puis d'autres qui les retiennent. Donc, effectivement, pour certains, c'est compliqué, à ce moment-là, d'aller d'une certaine manière à l'encontre du mouvement familial qui n'est pas forcément favorable et qui peut être inquiet encore plus en ce moment avec cette pandémie.
Merci Patrick Giraud. Je rappelle, vous êtes directeur de Roman International. Je vous dis au revoir, merci.
Merci à vous, au revoir.
Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
La CAF de la Drôme, tiens, Isabelle Tambay est là avec nous pour nous parler de l'agenda des structures. Qu'en est-il de l'actualité du réseau, Isabelle ?
Alors, restons tout d'abord avec Roman International qui propose du 1er au 15 mars 2022 une mission de volontariat du corps européen. Donc, si tu as entre 18 et 30 ans, tu peux partir avec un groupe de jeunes pour découvrir une culture, participer à un projet collectif au service de l'environnement, des enfants et des personnes en situation de handicap. Alors, le recrutement se fait sur la base de la motivation et de la capacité à tenir ses engagements. Les frais sont pris en charge par Erasmus+. Pour plus d'infos et pour s'inscrire, contactez Roman International. Donc le téléphone, c'est 04 75 72 58 65 ou envoyez un mail à sve@roman-international.fr. Autre actualité venant du réseau, des maisons familiales rurales d'Auvergne-Rhône-Alpes qui proposent leur journée porte ouverte le samedi 29 janvier de 9h à 16h. Alors ces journées du talent, c'est comme ça qu'ils les appellent, ont pour objectif de vous faire découvrir l'univers des MFR qui accueillent les jeunes dès 14 ans pour leur proposer un accompagnement vers la formation la plus adaptée à leur projet. En Drôme, on a 5 structures MFR, donc Buis-les-Baronnies, Divageux, Bourg-de-Péage, Châteauneuf-sur-Isère et Anneyron. Vous trouverez plus de renseignements sur les filières proposées par chacune d'entre elles sur le site mfrdromardèche.fr. Allons maintenant du côté de Jaillan, où Famille Rurale de Jaillan vous propose une soirée théâtre forum animée par la Compagnie des Songes et intitulée « Stop au harcèlement scolaire ». Cette soirée complètement gratuite et ouverte à tous aura lieu le vendredi 4 février à 20h à la salle des fêtes Henri Marais de Jaillan. Une information maintenant, si vous accompagnez ou si vous connaissez une personne qui accompagne un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. L'équipe de France Alzheimer de Valence vous propose de pouvoir bénéficier d'un cycle de rencontres et de partage pour les aidants. 5 séances collectives animées par un binôme psychologue et bénévole sont proposées les 4, 11 et 18 février et 4 et 11 mars de 14h à 17h au siège de l'association à Valence. Vous pouvez vous inscrire ou avoir plus d'infos à l'antenne Valence France Alzheimer. Pour finir, une info sur la prochaine soirée ciné-débat organisée par la CAF de la Drôme en partenariat avec le Luxe. Vous pouvez d'ores et déjà noter la date du jeudi 17 mars à 20h au Luxe. Le film projeté sera « À la vie », film documentaire de Aude Perrin sur Chantal Biermann, qui est une sage-femme libérale et féministe qui a consacré sa vie à défendre le droit des femmes. Le débat sera autour de l'arrivée de l'enfant et nous devrions avoir la chance d'avoir Chantal Biermann en personne. Vous trouverez toutes les infos sur cette soirée un peu plus tard, je pense mi-février, sur le caf.fr de la CAF de la Drôme.
Merci Isabelle, ce 26e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis, merci à mes invités du jour, Fabienne Moulon, psychologue clinicienne du Point Relais Oxygène de la ville de Valence et Patrick Giraud, directeur de l'association Roman International. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26, merci à Eric Barral pour la technique et Raphaël Terribilé pour les montages de cette émission. Le prochain Parentalité Mon Amour, c'est fin mars. On a abordera la thématique du jeu dans la famille. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives drômoises Soleil FM, Air d'Ivoire, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radioméga.com, caf.fr, udav26.fr. A très bientôt dans Parentalité, mon amour.
Comment est-ce que va l'endroit au vide? Tout le monde.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!